Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, bienvenue sur Bretagne 5, la plume est à vous. Dans cette émission, un texte de Arnaud Loubière, un prénom de femme pour titre, Soizic, et une histoire qui se déroule en Bretagne, dans un de ces petits villages où la rumeur va son train, en une époque pas si lointaine où les réseaux sociaux ne sévissaient pas encore. En piste, le fest-noz nous attend. À l'entrée du bourg, la salle des fêtes déchirait l'obscurité de ses néons crus et blafards. Il gara sa dodoche, le pincement nasillard des bombardes emplissait le parking. Profondément, il aspira la nuit encore tiède. Ses mains s'étaient mises à trembler. Il se sentit pris au piège, au pied du mur, en quelque sorte. Il se concentra sur le continuo sourd de laveuse. Il ne pouvait se décider à franchir le pas. La porte passée, plus rien, jamais, ne serait comme avant. Il le savait. Pour la première fois, il eut peur. Pulsation binaire, martèlement des pas dansés sur le plancher fatigué de cette salle des fêtes d'une autre époque. Oscillation nocturne d'un canadescan sans froufrou. Parquet crasseux de vieille cire au relent d'école. Fanch tenait les entrées.
« Il y a du peuple, hein ?»
Yann cria pour couvrir la sono. Fanch haussa les épaules sans entendre, encaissa les 6 francs du billet, dont 1 franc pour Diwan, et lui tamponna le poignet. Danseurs et musicaux s'étaient figés. Sur scène, un nouveau groupe s'installait. Crachouillis brutales des amplis, arpèges d'acier, égrenés sur des guitares qui s'accordent. Brusques envolées des bombardes, sa larcenait dure et la balance s'éternisait. La buvette ne s'en plaindrait pas, qui débitait des rivières de cidre et de chouchène. Ici, par conviction militante, on avait banni la croix et le père Benoît étoilé. Gorge sèche, la clope au bec, le flux des dansous sans emploi serpentait vers le comptoir. De l'entrée, Yann scruta la fumée bleutée et tenta de repérer Manu parmi la foule. Rondeloudia, beugla un sonneur au micro entre 2 explosions de la bombarde. Fin de la récré. Éclat soudain du biniou, des guitares. Aussitôt, mû par un instinct collectif, plusieurs cercles se dessinèrent. Tous, enchaînés par l'auriculaire, tapaient les pieds en une chorégraphie bien huilée, balançaient les bras dans l'air et traçaient dans l'espace des courbes rythmées qui marquait le tempo. Le corps, par tous ses sens, participait à la fête. On respirait la touffeur. Il s'y mêlait en un cocktail sans nom, l'âcreté des roulés et des cousus, la poussière obsédante du piétinement, l'échauffement suré des danseurs en nage et, montant du bar, un puissant parfum de miel. À présent que les dansous occupaient tout l'espace au pied de la scène, les abords de la buvette s'étaient éclaircis. Yann avisa Manu, une bolée de cidre doux devant lui, à l'angle du comptoir, et l'y rejoignit. L'un et l'autre parlaient peu, Manu était un solitaire. Ils se fréquentaient depuis la communale. C'est prêt ? Yves et Albert, les deux bénévoles qui officiaient à la buvette, étaient hors de portée de leur voix. Du menton, Manu désigna la sacoche au pied du tabouret. Sans un mot, Yann en fouilla discrètement le contenu. Il la reposa très vite, avec un sourire satisfait. « Il est là ?» murmura Yann. Manu acquiesça. Yann suivit son regard vers le fond de la salle. Quelques hommes formaient cercle près de l'entrée. De loin, à travers la mosaïque changeante des danseurs, Yann repéra son homme, un type gauche et timide, emprunté, dont les affaires pourtant allaient bon train. Marcel Floch. Son pouls accéléra, son ressentiment vira à la haine, une haine sans nuance dont la puissance brutale l'étonnait lui-même. Depuis un mois que Yann le pistait, il savait à peu près tout de lui. Son bar, tabac, restaurant, traiteur, épicerie chez Marcel marchait du feu de Dieu. Ses fils au fourneau, sa bru à la caisse et son beau-père, sous la blouse grise de l'épicier, faisait presque sans lui tourner la boutique. Ah. Veuf de bonheur, Marcel vivait chichement, mais sans privation. Sa seule passion connue allait à sa roseraie. Sécateur à la main, il y passait le plus clair de son temps quand il ne supervisait pas ses brigades. Yann, tapis au creux de la haie du jardin, avait observé l'homme à son insu, des heures durant, guettant ses moindres faits et gestes et ruminant sa vengeance. Au cours des dernières semaines, Yann ne l'avait pas lâché. Il l'avait même filé jusqu'à Saint-Brieuc, où Marcel s'était rendu chez Ratansol, l'une des meilleures bijouteries de la ville. Sa conviction s'était forgée peu à peu, comme cette colère rancunière qui le soulevait à présent. Ce soir, il présenterait l'ardoise. Faire bonne mesure, il éclusa encore quelques gorgeons de chouchène qui éperonneraient son courage. Il lança à Manu le signe convenu, puis se fraya un passage vers la sortie. Il lui sembla alors que Manu était sur le point de parler, mais il n'en fit rien et Yann crut s'être mépris. Quelques instants plus tard, tous deux prenaient place dans la deux chevaux. L'obscurité était absolue. Lentement, ils roulèrent, phares éteints, et s'arrêtèrent rue de la Fontaine Limon, à deux pas de la Venelle Saint-Roch. Marcel, pour rejoindre son domicile, traverserait obligatoirement l'Avenelle. Le passage était idéal, étroit, isolé et sombre à souhait.
Oh, on va le faire payer ce fumier,
murmura Yann entre les dents.
Saleté de veuf. Tu sais que Soisy qui est passé 6 fois à la boutique cette semaine.
Il remâchait les mots assassins comme pour se donner du courage et soutenir sa haine.
À l'épicerie, ma nuit, 6 fois. Je l'ai noté avec les heures et tout. 6 fois chez lui, oh la salope. Oh, même quand la boutique est fermée, la mère de mes gosses. Mais faire ça à moi, 6 fois. Oh, c'est sûrement pas pour du beurre qui passe à l'épicerie, hein. Il s'est chauffé.
Cause pas si fort,
siffla Manu.
On va se faire gauler.
Mais on ne l'arrêtait plus. Sa rancune, sa rancœur débordait.
Mais tu vois, Manu, encore, si c'était un jeune, un Apollon, genre maître nageur. Mais là, un nabo chauve et qui bégaye en plus. Oh, c'est pas possible. Il a de quoi de plus que moi, hein, Manu. Il a de quoi de plus que moi, hein.
Le pognon, c'est ça, c'est le pognon. C'est comme ça qu'il l'a eu.
Avec la quincaillerie de chez Ratan Sol. Ouais, je te dis, les femelles, c'est toutes les mêmes. Ça met les yeux sur le clinquant, pourvu que ça brille un chouïa, et ça connaît plus son homme.
Le chouchen rendait Yann exceptionnellement bavard.
Ta gueule, fit Manu, prépare-toi.
Il hésita soudain, comme traversé par une ombre indécise.
Remarque, on peut encore tout arrêter.
Yann fixa Manu, incrédule, les narines battantes et l'œil flamboyant.
Mais pas question, c'est décidé. T'as les foies ou quoi?
Non, mais... Oh, puis laisse tomber. Yann plongea dans la sacoche. En un tournement, gants et cagoules furent enfilés. Chacun portait une lampe frontale qu'ils se gardèrent d'allumer. Ils avancèrent dans la venelle et prirent position en silence, selon le plan soigneusement établi. Chacun savait son rôle. L'attente commença. Le fest-noz épuisait ses ultimes danseurs et l'obscurité vibrait encore du dernier écho assourdi des bombardes. Il ne tarderait plus. Bientôt, un pas se fit entendre. Ils reconnurent l'allure hésitante, puis la découpure chétive de l'homme qui approchait. C'était bien Marcel. Le reste se produisit en un éclair. Ils surgirent de l'ombre du mur en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Marcel fut maîtrisé, entravé, bâillonné et déculotté. Le caleçon sur les pieds, tandis que Manu lui maintenait la tête, il offrit au talent artistique de Yann la chair grise et molle de son postérieur. Petites éminences charnues, traversées d'une vallée profonde comme une ria, dont les tristes broussailles flavescentes, telles des soies de porc, brillaient au feu blême des lampes frontales. Yann trempa son pinceau en queue de castor dans le mercurochrome et traça, en commençant par le bas de l'échine, un très joli cœur rouge vif. Le trait courait sur les deux éminences joufflues, respectant les formes naturelles et figurant assez bien de part et d'autre de la vallée centrale l'association oreillette-ventricule. Comme tout cœur, il eut sa flèche, transperçant les broussailles érotiques pour réapparaître, triomphante, au flanc de l'autre vallon. Le bougre poussait des petits grognements plaintifs, tortillants, tortiller vainement du croupion sous la poigne d'acier de Manu, et Yann, d'un pinceau sûr, signa son œuvre en travers des reins d'un énigmatique premier et dernier avertissement. L'ayant pudiquement reculotté, ils s'esbignèrent sans un mot dans les ténèbres. On entendit le démarrage précipité d'une deux chevaux. Puis le calme retomba sur la nuit encore tiède. Le lendemain était un samedi. Midi approchait. Soizic était revenue de l'épicerie et s'affairait en cuisine. Elle paraissait pour le moins bouleversée. T'as entendu ce qu'ils ont fait à ce pauvre Marcel ? Yann se raidit. Qui il ? S'informa-t-il, circonspect et le cœur accéléré. Ben, on sait pas, fit Soizic, qui narra par le menu tout ce que Yann connaissait déjà. Yann ne répondit pas, feignant un intérêt modéré et s'en tenant à d'indistincts marmonnements dubitatifs. Dans le fond, il jubilait. Soizic était ébranlé et semblait souffrir. La nouvelle avait envahi le bourg plus rapidement qu'une épidémie de gastro. Et chacun y allait de ses commentaires partagés entre rire et indignation. Un imitateur de Don Camillo, entendait-on. Dans les bistrots et jusque chez Marcel, ça conjecturait dur autour des communards à peine lampés et les moustaches frétillaient sous l'outrage. Marcel avait parlé de porter plainte. Pour l'instant, il fuyait. Il fuyait la compagnie du monde et cachait sa honte dans le parfum suave de ses rosiers. Le dimanche, ah, le dimanche fut un choc. Il n'y a plus de pain, lui avait dit Soizic, sur l'heure du midi. Va donc me prendre un rustique. En maugréant, Yann s'était exécuté. Ah, jamais elle ne pensait au pain. Ah, c'était agaçant, répétitif. Oh, comme il atteignait l'épicerie, Marcel l'attendait. Sur le pas de la porte, bras croisés, visage impénétrable. Son sang, soudain, se glaça. Viens-t'en, fit Marcel. J'ai un truc à te faire voir. Yann le suivit, méfiant, muscles bandés, cœur à se rompre. Ils traversèrent le bar et l'épicerie, et s'arrêtèrent à la porte de la salle des banquets, là même où ils avaient, Soizic et lui, jadis, célébré leur mariage. Vas-y, ouvre, t'es blanc comme un drap de linceul, bégaya Marcel. Yann hésita. Le regard insistant de Marcel croisa le sien. Du bout des doigts, il poussa enfin la porte, prêt à faire le coup de poing, et demeura interdit, muet, bras ballants, pétrifié. Tandis qu'une soixantaine de poitrines soutenues par la vielle du vieux Jean Cabon entonnait un vibrant « Joyeux anniversaire !» et que dans un aimable brouhaha, les extras faisaient sauter les bouchons. Ils étaient là, tous là, cousins, enfants, amis, voisins, Soizic en tête. Elle approcha. Elle tenait un petit écrin vert bouteille, artistement noué d'un bolduc. Bon anniversaire, Yann. Comme je conduis pas. C'est Marcel qui a choisi, cher Attensol. Pour tes 50 ans, fallait bien marquer le coup. J'espère que ce sera à ton goût. Enfin, c'est choisi par un homme. Elle l'embrassa sur la joue. C'était une splendide chevalière toute d'or et marquée à son chiffre. Ah, Yann, si tu savais, mais si tu savais comme il m'a aidé, Marcel, toujours prêt à rendre service. Oh, je voulais que tu te doutes de rien rapport à la surprise. Ben, c'est lui qui a tout organisé. Et t'as vu que du feu. Pour Marcel et Pipip, hurla Soizic. Ouah ! Reprit un cœur enthousiaste. Oh, quand je pense aux saligots qui lui ont fait ça, s'indigna-t-elle. Un homme qui a pas plus doux. Pétrifié, sans réaction, anéanti, paralysé. Il regardait Marcel dans son étroit costume gris, pitoyable, avec son regard de cocker triste. La vision des deux petites fesses rebondies qu'il avait si artistement taguées le hantait. Il aurait voulu remonter le fil du temps, effacer l'ardoise magique, secouer le télécran et faire comme si rien jamais n'était advenu. Il aurait voulu pouvoir disparaître, se fondre au dallage blanc et noir de la salle, s'annihiler en tournant le chaton de la chevalière et pourquoi pas mourir là, sur place, sans explication. Malgré l'embarras, Marcel tenait bon, faisait bonne figure, souriait timidement à la ronde, recouvrait, par la reconnaissance affectionnée de cette foule, une parcelle de cette dignité bafouée. Car chacun savait la mésaventure. On célébra Marcel, son dévouement, avec une gratitude quelque peu outrancière. Une ferveur condescendante que d'aucuns vouent parfois aux affligés, mais qui lui alla droit au cœur, car elle était à la mesure de l'outrage. Ah, comme ça faisait du bien. Yann, lui, n'était qu'un bois flotté, amorphe, rongé par le sel du remords et dérivant d'un groupe à l'autre, une coupe vide à la main. Où donc était Manu dans toute cette presse ? Pouvait pas, le baptême de son petit neveu, entendit-il Soizic répondre à sa question muette. Il sursauta. Il avait dû penser tout haut. Oh, dangereux ça ! Fallait se reprendre, d'urgence. Pour Yann, la fête passa dans une semi-conscience, un dédoublement étrange où il se regardait vivre, agir, extérieur à lui-même, une coque vide qu'il n'habitait plus. Soizic jubilait, même si parfois, à certaines évocations gaillardes, une ombre imperceptible voilait un regard troublé. Ah, la surprise avait été complète. Elle avait réussi son coup. Mais elle trouva que Yann, comme à son habitude, en faisait un peu trop. Le champagne, sans doute. Les fées ne s'estompaient toujours pas lorsque, après le bal, après les vielleux et les sonous qu'elle avait engagés, les invités se quittèrent, fort tard, dans la nuit. Yann ne put fermer l'œil. Il ne s'endormit qu'au petit matin, d'un sommeil peuplé et chaotique, dont il n'émergea qu'à l'heure de l'apéritif. Sur la table, en formica, un mot de Soisic recommandait de ne pas s'inquiéter. « Je suis parti à la salle récupérer les fleurs et la déco. À tout à l'heure !» Yann marcha nerveusement dans la cuisine. Son égarement et son délire résistèrent à un reste de café réchauffé qu'il laissa bouillir. Il lui fallait de toute urgence parler à Manu, de toute urgence, ou bien son esprit en tumulte allait exploser. Cela devint une obsession. Manu habitait à l'écart du village, une bicoque délabrée qu'il occupait en ermite depuis la mort des parents et la préemption des terres aux fins de lotissement. Le crépuscule d'une époque où les attelages traversaient encore la place de l'église. Un monde se mourait, l'autre attendait de voir le jour. Lorsque Yann arriva, la porte était entrebâillée. Il appuya son vélo à l'angle de l'auge en pierre, envahie d'herbes folles, et se rua sans autre procès dans le couloir qui ouvrait sur la cuisine. Putain, Manu, mais t'es au courant? Oh putain, mais la boulette, on l'a faite, la boulette. On s'est gouré avec Marx. La seconde syllabe se perdit dans un souffle incrédule. Manu besognait sur la toile cirée de la table, cachant aussi mal que Soisic une nudité cruelle qui ne laissait aucun doute. « Ben merde !» fit Yann. Et il s'écroula d'une masse. Ce furent là ses dernières paroles confiées à l'éternité.
Elle n'aime pas beaucoup la solitude, cependant que je pêche et que je m'ennoblis. Ma femme sacrifie à sa vieille habitude de faire à tout venant les honneurs de mon lit. De faire à tout venant les honneurs de mon lit. Et oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête, on fait force de trous dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus à la fête quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Au péril de mon cœur, la malheureuse écorne le pacte conjugal et me le déprécie. Que je ne sache plus où donner de la corne semble bien être le cadet de ses soucis. Semble bien être le cadet de ses soucis. Les galants de tout poil viennent boire en mon verre. Je suis la providence des écornifleurs. On cueille dans mon dos la tendre prime verte qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. Qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. En revenant fourbu de la pêche à la ligne, je les surprends tout nus dans leur débordement. Conseille-leur le port de la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. Ils s'y refuseront avec entêtement. Souillez mon lit nuptial, est-ce que ça les empêche de garder les dehors de la civilité? Qu'on me demande au moins si j'ai fait bonne pêche, qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. Qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. De grâce un minimum d'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de safran. Le cocu d'ordinaire, on le choie, on le gâte, on est en fin de compte un peu de ses parents. On est en fin de compte un peu de ses parents. À l'heure du repas, mes rivaux détestables ont encore ce toupet de lorgner ma portion. Ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table, cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Partager sa moitié, est-ce que cela comporte que l'on partage aussi la chair et la boisson? Je suis presque obligé de les mettre à la porte, et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Bien content qu'en partant, ces mufles ne s'égarent pas à mettre le comble à leur ignominie. En sifflotant, il est cocu le chef de gare, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami.
Indémodable Brassens, Soisic, une nouvelle dramatique, tragique même, qui illustre d'assez près cette citation souvent attribuée à Voltaire « Gardez-moi de mes amis, quant aux ennemis, je m'en charge ». Bons et méchants ne sont pas toujours là où on les attend. Alors, foin d'un manichéisme par trop réducteur et laissons à la conscience du pauvre Manu la lourde charge d'un remords qu'il n'a pas volé. La plume est à vous, se termine. Merci à l'ami Frédéric Guyon, incontournable réalisateur qui a mis en onde cette émission. Je vous retrouve dimanche prochain à cette même heure pour une nouvelle édition de La plume est à vous. Passez une très belle semaine avec les programmes de Bretagne 5. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.